BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin et Laurent Valdiguier.
Affaire suivante numéro 287, soyez les bienvenus au sommaire de notre dimanche. Fin de cavale pour Mohamed Amra après 9 mois de traque. L'homme le plus recherché de France a été interpellé hier à Bucarest en Roumanie. Comment cette traque s'est-elle organisée? Comment Mohamed Amra a-t-il organisé sa propre cavale? On va vous donner les tout derniers éléments dans un instant. Nous allons aussi tirer les fils de cette affaire Mohamed Amra. De combien de complicités a-t-il bénéficié? C'est une information BFM TV, au moins une dizaine de gardes à vue sont en cours, des personnes interpellées la nuit dernière à l'étranger et en France, notamment à Rouen. Nous allons vous montrer les images exclusives de ces arrestations qui ont eu lieu cette nuit à Rouen. Ce sera dans un instant. Et puis nous allons aussi en venir à ce procès qui va s'ouvrir demain dans le Morbihan. Le procès de l'horreur, celui de Joël Lescouarnec, ancien chirurgien digestif qui pendant des années a violé et abusé sexuellement de ses patients, des enfants entre 8 et 13 ans, près de 300 enfants. Il racontait tous ses abus dans des carnets noirs qu'il gardait précieusement chez lui. Nous recevrons l'une des femmes qui l'accuse. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Affaire suivante, ça commence tout de suite.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin et Laurent Valdiguier.
C'était l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché de France. Mohamed Amra a donc été arrêté hier en milieu d'après-midi en Roumanie, fin d'une cavale de 9 mois pour celui dont l'évasion avait été minutieusement préparée. Une évasion, vous vous en souvenez, sanglante, le 14 mai dernier, durant laquelle deux agents pénitentiaires de 34 et 52 ans avaient été tués. Alors comment Mohamed Amra a-t-il été traqué? Comment a-t-il pu se cacher si longtemps? On fait le point avec Pierre-Louis Bousset.
Menotté, l'air hagard et les cheveux teintés en roux, Mohamed Amra vient d'être interpellé sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. L'homme le plus recherché de France, arrêté par la police roumaine dans un quartier de la capitale Bucarest, après plus de 9 mois de cavale.
D'un côté, il y a un volontarisme, des mois et des mois d'enquête. Croyez-moi, très régulièrement, on me faisait le point sur cette enquête-là. Vous n'imaginez pas les techniques, vous n'imaginez pas les efforts qui ont été déployés sur un individu qui était très très dangereux.
Pour retrouver Mohamed Amra, une notice rouge avait été émise par Interpol à la demande des autorités françaises. Selon le parquet de Paris, il a été identifié grâce à un travail de coopération entre l'Office central de lutte contre le crime organisé et la police roumaine. Une coopération dont s'est félicité le président de la République.
C'est un formidable succès. Je veux d'abord remercier les collègues roumains et tous les collègues européens et féliciter les services enquêteurs français qui, depuis des mois, traquaient Mohamed Amra. Et j'ai une pensée et beaucoup d'émotion pour les familles.
Un soulagement aussi pour le père d'Arnaud Garcia, agent pénitentiaire tué lors de l'évasion de Mohamed Amra.
Je suis totalement ravi, content. On a une pression en moins par rapport à ce qu'on a pu avoir depuis plus de 10 mois. On va arriver dans la phase judiciaire. Donc j'en suis ravi, quoi.
Pour l'heure, le fugitif reste incarcéré dans ce centre de détention en Roumanie.
Alors comment cette traque a-t-elle été organisée? Comment Mohamed Amra a-t-il réussi à se cacher pendant si longtemps? On va essayer de comprendre tout ça avec nos invités. Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV qui nous accompagne. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Jean-Pierre Colombiès, bonjour, merci d'être là. Vous êtes ancien policier de la police judiciaire et vous avez bon nombre d'affaires à votre actif. Vous allez nous aider à comprendre tout ça. Mourad Batik, bonjour, avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci d'être là également. Et puis Jérôme Poirot qui nous accompagne aussi pour comprendre toute cette affaire en consultant BFM TV, ancien adjoint à la Coordination nationale du renseignement. D'abord, Jean-Pierre Colombiès, j'aimerais bien vous entendre sur la manière dont s'est passée cette arrestation hier. C'était quelque chose de très minutieux, de très programmé. Selon vous, tout était pesé?
Bien sûr, oui. Là, ce qui a été à peine évoqué mérite quand même qu'on s'y attarde un peu. Il y a une coopération international qui se met en place dans l'espace Schengen et qui a débouché notamment sur la création de dispositifs comme Europol et qui permet l'envoi d'officiers de liaison dans les pays où sont supposés être en résidence les individus qu'on recherche. Et bon, le cas présent c'est Amra. Donc il y a en amont, mais vous savez, on n'arrive pas à ce type d'interpellation sans un travail en amont qui est considérable, comme ça a été dit. On n'est pas dans une affaire banale là, on est dans une affaire d'assassinats en bande organisée, un véritable commando, c'est exceptionnel. On n'avait jamais vu ça auparavant. Deux gardiens de prison, enfin deux membres de, oui, de l'administration pénitentiaire qui sont exécutés. Il n'y a pas d'autre mot. Et on a droit à une structure de criminels qui n'a peur de rien. Donc ça nécessite un travail en amont très précis, très précautionneux, à la fois parce qu'on va s'attaquer à eux à un moment donné, mais parce qu'il faut qu'il n'y ait aucune fuite. Il faut s'assurer d'une collaboration pleine et entière des services qui vont être le relais des informations qui vont être leur être transmis par les services de police français. Et ça vaut également pour les services espagnols, puisqu'il y a eu une interpellation concomitante. Donc tout ça nécessite la mise en place de quelque chose qui échappe un petit peu, je dirais, à la vision de l'opinion publique, à savoir un relationnel à la fois policier, de la justice aussi. Il ne faut pas oublier que l'appareil judiciaire est complètement investi dans cette traque et dans la coordination de l'interpellation qui, elle, est le fruit des effectifs locaux. Ce sont bien les Roumains qui ont interpellé cet individu, ce suspect.
Cette interpellation, d'ailleurs, Maxime, sans violence, sans tir, c'est-à-dire qu'il savait exactement ce qu'il faisait. On était en plus dans un lieu public, donc il fallait faire ça avec une certaine habileté.
Oui, c'était près d'un centre commercial en Roumanie, dans la capitale, à Bucarest, et c'était vers 15h que les policiers roumains ont décidé de l'interpeller dans la rue. Vous l'avez dit, il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'a pas non plus été blessé. D'après nos informations, il a été interpellé seul. On n'a pas forcément d'éléments sur le fait est-ce qu'il était armé ou pas, est-ce qu'il y a eu une prise de risque. Ce qu'on a vu, ce sont ces vidéos diffusées par des témoins de la police roumaine qui le tient avec lui, avec ses cheveux colorés. Une interpellation effectivement dans le calme, sans blessure ni tir.
On va commenter cette photo évidemment, Laurent.
Non, mais ce que disait Jean-Pierre Colombier, c'était pas de fuite. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de fuite puisque Amra ne s'attendait pas à être
absolument
arrêté.
Oui. C'est donc fondamental.
Effectivement, Amra, comme le dit Maxime à l'instant, et les policiers roumains lui sont tombés dessus. Sans, je crois qu'il n'était pas armé, mais enfin bon, en tout cas sans qu'il ait eu le temps de réagir. Donc c'est vrai que l'effet de surprise est a total, marché. Ouais.
Il le savait depuis quand qu'il était en vie? Parce que cette question, elle s'est posée. On s'est tous demandé, est-ce que Mohamed Amra est encore en vie ou non? Depuis quand, Laurent, il pouvait avoir cette idée qu'il était encore en vie?
Vous savez, au départ de cette évasion, il y avait plusieurs hypothèses, notamment celle selon laquelle il aurait été enlevé par un gang rival pour l'éliminer. Ils n'y ont jamais vraiment cru, les policiers. Ils savent qu'il est en vie depuis des mois parce qu'ils savent, ils ont compris, les enquêteurs, qu'il se tairait. D'ailleurs, la preuve de tout ça, c'est que ce matin, sans attendre, ils ont arrêté au moins 10 personnes. En réalité, ils avaient le commando. Ils étaient derrière eux. Les arrestations de cette nuit et de ce matin le prouvent. C'est la décision du juge d'instruction, qui est en charge de tout ça, qui manifestement a été de dire « on attend d'attraper Amra ». Parce que c'est vrai que les policiers auraient pu attaquer, puisqu'ils les ont identifiés, auraient pu depuis certainement des semaines arrêter les autres. Ils ont décidé, et ça c'est une décision forte, ils ont décidé de commencer par Amra. Et là, du coup, tout dégringole dans la foulée.
Mais quand les choses marchent bien, voire même très bien, il ne faut pas hésiter à le dire, c'est totalement exceptionnel ce à quoi on assiste. Une telle coordination au niveau national et international, de mon sens, c'est une des premières fois qu'on assiste à ça, quoi. Et c'est tant mieux. Après, il y a une forme de mise en scène aussi, il ne faut pas se le cacher. La photo entre Amra et les deux policiers roumains, ça rappelle un peu le chapeau. Hein. On a un peu droit à cette... Mais tant mieux. Tant mieux si ça peut servir de message subliminal à ceux qui auraient envie de faire une cavale sans vraiment en avoir l'assise. C'est pas plus mal, quoi.
Je voudrais qu'on... Oui.
Il faut peut-être souligner aussi des interpellations qui se passent bien, alors même que les complices d'Amra savaient qu'il avait été interpellé. Parce que c'est le risque d'arrêter une telle figure à l'étranger. Les photos ont été communiquées immédiatement par des témoins en Roumanie. C'était prendre le risque que tous ces complices se disent « oh là là, il faut partir ». Et donc, ces 10 interpellations, visiblement, fonctionnent.
On va revenir longuement sur ces interpellations un tout petit peu plus tard, parce qu'on va essayer de comprendre effectivement tout ce réseau Amra et jusqu'où ça peut aller. Je voudrais juste avant, parce qu'on l'a vu cette photo, et il faut quand même la commenter, la photo de Mohamed Amra. On va la revoir avec ses cheveux couleur carotte, il s'est grimé comme ça. Alors, à la fois Mourad Batik et Jérôme Poirot, je voudrais vous entendre sur cette photo. Le meilleur moyen de se dissimuler?
Non, c'est grotesque. Enfin, on le reconnaît immédiatement. Les Roumains ne sont pas réputés pour avoir les cheveux roux. C'est comme s'ils s'étaient mis un gyrophare sur la tête. Enfin, si vous voulez, dans une filature, il est plus facile à suivre que... Donc, il ne s'est pas fondu dans la masse. Mais en complément de ce qui a été dit, je pense qu'on peut souligner à la fois la grande naïveté d'Amra et de ses complices et leur grande bêtise. Parce que Amra, peut-être pensait-il être tranquille en Roumanie, c'est ne rien comprendre à toute la puissance de la police judiciaire et à la puissance de coopération entre police et justice au sein de l'Union européenne que vous avez décrit. Et puis, comme le dit Maxime Brancheter, ses complices savent depuis hier qu'Amra est arrêté, ils ne pensent pas à prendre la fuite. Donc, on est face à, évidemment, des gens extrêmement déterminés, d'une violence inouïe, mais des gens qui sont à la fois naïfs et bêtes.
Rebatique sur cette apparence de Mohamed Amra hier quand on l'interpelle.
C'est très surprenant. C'est très surprenant parce qu'on pouvait effectivement attendre de ce commando qui a commis l'irréparable dans une barbarie extrême. On pouvait s'attendre à ce qu'il soit mieux organisé, à ce que effectivement on retrouve Mohamed Amra dans un autre pays, vêtu différemment, déguisé différemment, et à s'attendre à un niveau de professionnalisme autre. On se rend bien compte aujourd'hui que effectivement penser être roux et penser que ça suffit à brouiller les pistes, on voit bien la limite de ces individus qui ont organisé ça. C'est assez contradictoire. Et c'est contradictoire avec le modus operandi, c'est contradictoire avec la violence. Mais il faut aussi penser qu'une cavale, c'est très compliqué. Une cavale, ça coûte cher. Une cavale, c'est compliqué.
Il a tenu neuf mois,
ce qui est déjà extraordinaire vu le niveau de d'investigation et d'enquête qu'il y avait au-dessus de sa tête. Mais on voit aussi que voilà, la cavale, c'est compliqué, que ils finissent par commettre des erreurs grossières. Et la première, c'est la dissimulation.
Nous, on tient 48 heures. Hein. Avec non mais c'est vrai,
avec tout votre savoir-faire à tous, plus que ça,
avec les moyens qui ont été mis, y compris numériques, d'enquête, de filature, le nombre de policiers, je vous trouve un peu sévère quand vous dites que sous prétexte qu'il est roux, tout ça était folklorique. Il a tenu 9 mois.
Et il est passé
et
de pays en pays.
En mai, on disait il sera arrêté dans 2 jours. Hein.
Mais la réalité, c'est qu'il aurait peut-être pu être arrêté avant, mais effectivement, il y avait l'idée d'un coup de filet global, et peut-être que l'appréhender il y a 3, 4, 5 mois, c'était laisser la possibilité à certains de fuir. Il y a aussi, à mon avis, une lecture...
Je pense que la priorité des enquêteurs, c'était justement Mohamed Amra. Peut-être que c'est les interpellations d'aujourd'hui qui auraient pu être arrêtées avant, mais que leur grosse priorité était de retrouver Mohamed Amra.
Symboliquement,
et comme il se faisait discret, on voulait laisser toutes les possibilités de communication.
Ce qui, moi, me surprend plus, avec un regard moins connaisseur que vous, c'est que là, il était en train d'aller, visiblement, dans un centre commercial. On aurait pu imaginer qu'il se cache au maximum. On va pas forcément dans un centre commercial, lieu public, où il y a des caméras de vidéosurveillance. On aurait pu imaginer ça. Est-ce que c'est illogique de le penser comme ça ou pas?
Non, oui et non. Ça peut s'expliquer par une forme d'excès de confiance. Bon, faut rappeler quand même que quand il s'évade, on a indiqué qu'il avait dans sa cellule tout un nombre de moyens de communication, téléphone.
Une sorte de
liberté d'action et d'organisation totale. Et il s'est probablement dit, j'essaie de me mettre à sa place. Hein, finalement, bon, ça n'a pas été si difficile que ça d'organiser une telle opération. Personne n'aura l'idée d'aller venir me chercher en Roumanie. Je suis tranquille. La Roumanie, c'est loin de la France. C'est pas tout à fait la même frontière. Et on peut s'en sortir comme ça. Sauf que, il a oublié qu'il y avait une nécessité. Ça a été dit. Une cavale, c'est une logistique. Donc, faut quasiment tout payer en espèces. Faut avoir du cash en quantité. Un réseau sur place dense. Et à l'évidence, ils ne l'avaient pas. Ils sont pas non plus sur une autre planète, quoi. Ils sont sur la planète Europe aujourd'hui. C'est un espace qui est contrôlé, où il y a des relais quasiment partout. Donc, échapper aux mailles du filet, à un moment donné, ça casse. Il a des amis, il a des relations, il a une famille. Donc, à un moment donné, l'affaire était tellement médiatisée, elle est tellement énorme, que tout ce petit monde a été mis sous surveillance. Il est évident qu'à un moment donné ou à un autre, dans vos filets, vous raccrochez un petit poisson qui vous amène au plus gros.
Je crois que d'après ce qu'on sait, qu'il a justement pas commis l'erreur de communiquer avec des proches et sa famille.
Les autres, oui, peut-être.
Ils ont été extrêmement surveillés. D'après ce qu'on sait, ils ont réussi à identifier un mouvement
bancaire, oui, aussi,
suspect,
oui.
Un mouvement de personnes qui pouvait être Mohamed Amra vers la Roumanie, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le remonter. Mais faut quand même souligner qu'il a réussi à traverser l'Europe, parce que effectivement, un centre commercial en Roumanie, il peut y avoir des caméras de vidéosurveillance, c'est imprudent, mais d'après ce qu'on sait, il avait l'air de se cacher en France, en tout cas pour la fin de sa cavale. Ça veut dire qu'il a dû sortir de France, donc il faut passer par des routes où il y a des caméras de vidéosurveillance, il y a des péages, il y a des contrôles, où je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui auraient été capables de le reconnaître, même avec les cheveux.
Nous n'avons pas les frontières les plus hermétiques du monde.
Non, mais il faut quand même, si on parle d'une de caméras de vidéosurveillance dans un centre commercial en Roumanie, on peut supposer que c'est risqué quand même de
se cacher en France. Ça veut dire complicité, ça fait partie de ce qu'on va décrypter avec vous dans un instant, et on verra les images exclusives des arrestations qui ont eu lieu cette nuit, notamment à Rouen. Il y a une des hypothèses aussi, Laurent, que vous avanciez, je vous entends ces dernières heures, qui était l'hypothèse d'une chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'il n'était peut-être là qu'en train de se dissimuler, mais qu'il était peut-être prêt à aller plus loin.
Ben, c'est vrai que les enquêteurs français, quand ils ont suivi sa trace en Roumanie, ils se sont dit « Pourquoi Bucarest ?» Et puis pourquoi Bucarest? Pourquoi un mouvement? Parce qu'apparemment, Amra était terré depuis des mois, depuis le 14 mai, était terré dans sa zone. Qui est toujours l'hypothèse la plus fréquente, c'est de se cacher chez les siens. Et sans mouvement, puisque sinon, ils l'auraient arrêté à ce moment-là. Donc tout d'un coup, ils ont vu, comme disait Maxime, un mouvement, mouvement de voiture, on pense, qui a atterri à Bucarest. Ils se sont renseignés auprès des Roumains. Il avait loué apparemment pour une longue période un appartement. Longue période, ça veut dire qu'il n'allait pas partir tout de suite depuis Bucarest. Donc, ils se sont dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il fait à Bucarest? Donc, une des hypothèses à ce stade, ça sera confirmé ou infirmé par l'enquête, une des hypothèses, c'est qu'il serait allé à Bucarest pour faire de la chirurgie esthétique. Puisque les enquêteurs le soupçonnent, alors peut-être c'est ses cheveux qui leur ont aussi fait dire ça, soupçonnent d'avoir aussi une filière de faux papiers, qui est toujours aussi en cours d'investigation, pour pouvoir éventuellement prendre la fuite beaucoup plus loin que Bucarest. Donc c'est une de leurs hypothèses à ce stade, et ils le vérifieront, c'est l'enquête sur place, puisque jusqu'à présent, évidemment, ils n'ont surtout pas bougé tant qu'il n'était pas arrêté. Ils vérifieront s'il a pris des contacts, d'abord s'il avait des moyens de paiement avec lui, dans sa cache, on saura s'il avait du liquide ou pas, et s'il avait pris des contacts pour éventuellement se refaire le visage et ensuite partir beaucoup plus loin.
Alors justement, comment va se passer la suite de l'enquête? Qu'est-ce qui va se passer pour lui d'un point de vue judiciaire? Comment on va s'organiser toutes les opérations qui vont permettre de remonter son réseau? Est-ce qu'on peut d'ailleurs remonter l'intégralité de son réseau? On va se poser toutes ces questions dans un instant. Vous restez avec nous, à tout de suite. À 13h22, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'affaires suivantes, et on continue de tirer les fils de cette affaire. Mohamed Amra, jusqu'où vont pouvoir remonter les enquêteurs? Une information BFM TV, une dizaine de gardes à vue sont en cours, une dizaine de personnes ont été interpellées à l'étranger et en France ces dernières heures. Jusqu'où ont été ces complicités? On va s'interroger sur tout cela avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, deux de ces interpellations ont eu lieu au petit matin à Rouen. Boris Karlamov, c'est là que vous êtes pour BFM TV et vous avez pu assister, c'est un document BFM TV, à ces interpellations.
Absolument, Philippe, avec Bastien Moignou qui m'accompagne ici en Normandie. Nous avons pu donc assister la nuit dernière à deux interventions de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Une toute première intervention aux alentours de 4h13 dans l'un des quartiers où a grandi Mohamed Amra à Rouen. Nous avons vu arriver devant nous une colonne d'agents de la BRI, une dizaine de policiers casqués, boucliers à la main, qui progressaient dans une rue extrêmement sombre et dans un épais brouillard avant de pénétrer dans un immeuble. Il y avait également des enquêteurs qui les suivaient, mais tous ces agents de la BRI sont rapidement ressortis de cet immeuble avant de quitter les lieux, si ce n'est pour revenir sur place une demi-heure après, un peu plus d'une demi-heure après, aux alentours de 5h13, toujours ce même quartier, mais à une adresse différente de la première, à quelques dizaines de mètres. Ils ont ciblé cette fois-ci un autre immeuble, toujours le même dispositif. Une colonne qui progresse dans la rue, des casques, des boucliers, puis une pénétration dans un appartement. Ces policiers de la BRI, ils sont restés pendant plusieurs dizaines de minutes à l'intérieur de cet immeuble. Ils sont ressortis, puis nous avons vu sortir trois enquêteurs accompagnés d'une personne qui avait été interpellée, un jeune homme. Une interpellation qui s'est faite sans incident. Il n'y a pas eu de coup de feu, ni même de cri. Un jeune homme qui n'a eu de cesse de regarder ses pieds lorsqu'il marchait, menotté, direction donc la voiture des enquêteurs avant de quitter Rouen. Une illustration donc la nuit dernière ici à Rouen de ce vaste coup de filet. Dans la soirée de samedi, puis dans la nuit, 10 personnes de l'entourage de Mohamed Amra ont été interpellées entre la France et l'Espagne. Et toutes ces personnes, eh bien, elles sont suspectées d'avoir participé à la préparation, à l'exécution de l'évasion, mais également d'avoir favorisé la dissimulation du fugitif. À Rouen, un homme de 24 ans a été interpellé, puis placé en garde à vue.
Merci beaucoup Boris Karlamov, Bastien Moigneau pour ces images, ce document BFM TV qui nous dit beaucoup sur l'état d'esprit aussi des enquêteurs. Jérôme Poirot, quand on voit cette colonne de BRI, alors ils sont habitués aux interventions dangereuses, mais là ça veut dire qu'ils avaient anticipé que potentiellement face à eux, il y aurait peut-être de la résistance et une résistance dure.
Oui, oui, pour ce type d'individu, la tradition c'est de ne prendre aucun risque. Alors selon la disponibilité des forces et l'endroit où ça se passe, c'est soit le GIGN, soit le RAID, soit la BRI qui interviennent. Donc, ils sont très entraînés pour ce type d'intervention. Ils en réalisent d'ailleurs souvent. Donc, ils prennent évidemment des protections pour eux-mêmes. Ils sont lourdement armés. Et puis, dans une intervention comme celle-là, ils savaient où ils allaient et qui ils allaient chercher. Donc, il y a eu évidemment des surveillances pendant probablement beaucoup de jours avant les interventions de cette nuit, pour s'assurer que la personne qu'on va aller arrêter est bien là le jour où on veut l'arrêter, de voir s'il n'y a pas de mouvement suspect, si on n'identifie pas à l'occasion de ces surveillances d'autres personnes qui sont recherchées, qui peuvent être des complices. Donc c'est une opération, comme la décrit Boris Karlamov, qui finalement apparaît très simple, sans aucune... sans l'emploi véritablement, enfin pas d'armes à feu, à rien. Ça se passe très très bien parce que c'est très préparé en amont et puis parce que ce sont des forces spécialisées qui interviennent.
Ça pose évidemment beaucoup de questions. Maxime, vous nous disiez tout à l'heure, il a visiblement séjourné un bon bout de temps en France, Mohamed Amra. Alors ça nous interroge quand même sur le fait qu'il n'ait pas été repéré quand il était en France. Mais ça veut dire qu'il aurait pu potentiellement loger dans cet appartement qui a été visité ce matin par les enquêteurs. Quelles sont les hypothèses qu'on peut dresser ?
Alors, s'il est resté en France, l'hypothèse, elle est simple, c'est qu'il avait trouvé une ou plusieurs planques où il était très bien caché, où personne ne savait qu'il était là, et il avait construit un mur assez hermétique pour que l'information ne fuite pas. Il a peut-être dû avoir plusieurs planques, parce que parfois, c'est aussi une garantie de sécurité, même si tous les déplacements sont dangereux. Il en a fait les frais en se déplaçant en Roumanie, parce que, on le rappelle, il a interpellé peu de temps après être arrivé en Roumanie. Ça faisait pas longtemps qu'il y était. Donc voilà. Après, où était-il caché? Qui l'a aidé à se cacher? C'est aussi le but de l'enquête qui est en train de se mener. C'est aussi le but de ces interpellations et des gardes à vue qui vont suivre. C'est d'essayer de comprendre qui l'a aidé, comment a-t-il fait, et de sanctionner ceux qui ont participé.
Comment il a vécu?
Oui.
Faut de l'argent.
Il a vécu terré. De l'argent, oui, s'il est terré à boire de l'eau et manger des chips, ravitaillé, totalement planqué, ça, pour le coup, c'est pas la partie la plus chère de la cavale. Ce qu'il y a, c'est qu'il a des amitiés très fortes. Et puis c'est vrai que les 10 opérations de ce matin, sans coup de feu, ça nous montre un paradoxe. C'est que ce gang a mené une opération de caïd, parce que ça, c'était une opération de caïd, mais ça reste individuellement des petites frappes. Ils sont jeunes, ils n'ont jamais fait de braquage, de vol à main armée, d'attaque, a priori. C'est des trafiquants de drogue, d'évreux. C'est des trafiquants de stupes. Donc, pris isolément le matin à l'aube, ils se sont arrêtés sans tirer. C'est pas des braqueurs chevronnés à l'ancienne.
Non, probablement pas. Mais franchement, moi, je quand je vois ces images et puis qu'on a les informations qui remontent, moi, je tire vraiment un coup de chapeau à ceux qui ont assuré les repérages, les enquêtes de voisinage en hyper discrétion, les surveillances, parce qu'il a bien fallu en faire. On fait pas une opération comme ça, on donne pas un top interpellation sur 6 à 10 personnes sans que vous soyez pas certain de votre coup. Du moins, vous ayez réduit au maximum les risques de fuite. Déjà, on a de fuite au niveau de la procédure, et puis d'être repéré au moment des interventions. N'oublions pas que derrière les colonnes, vous avez aussi des enquêteurs, des OPJ, qui eux vont rédiger la procédure. Concrètement, vous avez une colonne d'intervention de la BRI, ou d'une autre force d'intervention, là pour le coup c'est la BRI, mais avec, vous avez aussi des OPJ qui eux vont rédiger la procédure. Ça on le fait régulièrement.
Jérôme Poirot, comment il a pu passer sous les radars s'il est resté plusieurs mois en France?
Comme le dit très bien Laurent Vadillier, enterré, sans moyens de communication modernes, avec des complices suffisamment sûrs et fidèles pour que, d'abord, ils ne parlent pas, qu'ils ne le trahissent pas, et puis qu'ils aient eux-mêmes des comportements qui se rapprochent le plus possible de la clandestinité pour qu'il n'y ait rien qui puisse laisser penser aux enquêteurs que tout l'entourage, qui était évidemment sous surveillance depuis longtemps, qu'on ne puisse pas déceler dans le comportement des uns ou des autres des choses qui laisseraient penser qu'ils sont en contact avec Amra. Donc ça nécessite, ça a été dit, mais que tout ça a été très préparé en amont, ça nécessite une discipline quotidienne de chaque instant d'Amra et puis de tous ses complices. Et ça nécessite, et c'est un des points, on s'interrogeait sur ça hors antenne, mais une fidélité d'un certain nombre de ses complices dans la durée. Parce que c'est quand même plus facile de trahir le chef d'un gang de stupéfiants quand il est affaibli, quand il est recherché, quand il n'est plus tout à fait en capacité d'être le chef de son réseau. On a vu que même en prison, ça restait le patron.
Il commanditait des opérations.
Mais là, il avait quand même des moyens de communication qui étaient beaucoup moins importants pour autant qu'il en ait conservé.
Cette fidélité, c'est effectivement important. Et ce que vous dites très précisément sur la discipline, parce qu'effectivement, j'imagine, pas sous votre contrôle à tous, mais que tous ses proches ont été mis sur écoute, archi-surveillés, on suit tout.
Évidemment.
Et personne n'a parlé, personne ne s'est trahi.
Alors que les proches soient sur écoute, ça c'était une évidence. Je pense que les proches en avaient parfaitement conscience. Donc évidemment que l'enjeu il n'est pas sur les proches, les membres de la famille. En revanche, ce qui est très étonnant dans ce dossier, c'est que sur les dossiers de trafic de stupéfiants, il n'y a pas de grande fidélité dans les équipes. C'est pas la bonne camaraderie. Dans les dossiers de trafic de stupéfiants, les enquêtes démarrent très souvent sur un renseignement anonyme. Renseignement anonyme qui est donné généralement par l'équipe d'en face ou par un membre de l'équipe qui essaye de récupérer le territoire. Et donc, je voulais, la trahison dans les trafics de stupéfiants, c'est presque la colonne vertébrale du principe des trafics. Et donc là, ce qui est très étonnant, ce qui est presque choquant, c'est qu'il a une fidélité de certaines personnes à l'extérieur qui continuent de l'aider alors qu'on est dans l'environnement d'un trafic de stupéfiants, qu'on est en plus face à quelqu'un qui a pas beaucoup d'honneur puisqu'il est connu dans le milieu pour procéder à des carottages, c'est-à-dire organiser des fausses livraisons de stupéfiants et les récupérer lui-même alors qu'il a encaissé l'argent entre-temps. Donc si vous voulez, il a des ennemis de l'intérieur. Il est pris en étau par les forces de l'ordre à l'extérieur et dans tout ça, entre les gens qui lui veulent du mal dans le milieu, plus les personnes qui le recherchent, l'institution judiciaire, on arrive quand même à trouver quelques personnes qui l'aident, qui continuent à l'aider, alors que finalement, si vous voulez, il a plus qu'une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est quelqu'un qui, tôt ou tard, va être amené à être traduit devant la justice. Et donc ça, c'est très étonnant.
Justement, qu'est-ce qui va se passer là pour lui? Il est à Bucarest, il y a des procédures qui vont s'enclencher. À quelle échéance il peut revenir en France?
Là, c'est très simple. Il y a un mandat d'arrêt européen qui a été émis. Donc il y a une procédure d'extradition qui va avoir lieu de la Roumanie vers la France. Et là, il y a deux possibilités, c'est extrêmement simple. Soit M. Amra accepte de venir en France et d'être extradé, soit il refuse d'être extradé au motif, il y a un des motifs qui est toujours privilégié, que les conditions de détention en France sont telles qu'on n'accepte pas d'être extradé, mais je ne suis pas sûr que les conditions en Roumanie soient bien meilleures. Donc voilà, en tout état de cause, il a la possibilité de contester son extradition. S'il la conteste pas dans les jours qui viennent, il va arriver en France très rapidement. On parle de quelques jours, 2, 5, 6, 7, 8, 10 jours. Et si jamais il conteste son extradition, ça ne pourra excéder 2 mois. Donc là, si vous voulez, il sera amené en France entre quelques jours et 2 mois grand maximum. Mais vu la pression qu'il y a en France, vu la pression qu'il y a sur l'État roumain aussi, je pense que ça ira très très vite.
Oui, puis il va se passer quelque chose, c'est la fin de son business. Parce que autant quand il était encore en prison, mais c'était avant que Gérald Darmanin soit garde des Sceaux, il pouvait continuer à gérer son business. Là, quand il va revenir en France, il va être dans un isolement tel. Donc il y a une succession à prendre. Ça va être aussi du point de vue policier et de la lutte contre le trafic de drogue, de voir qui va succéder à Amra.
Par contre, il va y avoir un élément très important. Ce qui risque de retarder son extradition, c'est les mesures de sécurité qu'il va falloir mettre en place pour l'extrader de la Roumanie vers la France, de la France vers le juge d'instruction et du bureau du juge d'instruction vers le centre de détention. Et ça, à mon avis, ça va demander une logistique qui va retarder un peu les choses parce qu'il va falloir qu'il voyage presque isolément. Peut-être qu'il va y avoir la mise en place d'un avion spécial. Enfin, ça va demander beaucoup de logistique.
Et on le met où?
Non, mais ça, justement, c'est la question fondamentale. C'est bon, le rapatriement, enfin, l'extradition, c'est une question de temps. Il peut faire ce qu'il veut, il peut retarder tant qu'il veut, il reviendra. Ça, c'est clair. Et tant mieux pour les familles des victimes. Effectivement, il y a un problème logistique qui va se poser parce qu'il ne faudrait pas recommencer les mêmes erreurs. Quel que soit le ministre qui sera en place ou qui ait été en place, on a tous fait le constat, on le fait depuis des années, que c'est un petit peu la foire dans les maisons d'arrêt. Il va falloir que ça cesse, ça, clairement.
Mais là, est-ce qu'on a une prison où on peut le mettre, où on est certain, où on a tous les moyens?
Si.
Alors, si on veut, on le met.
Il y a quand même des prisons très sécurisées. Oui. Donc les maisons centrales, qu'on appelle centrales, il y en a un peu moins d'une dizaine pour les détenus qui purgent des peines longues, souvent dangereux. Et puis dans ce qu'on appelle des centres de détention, c'est-à-dire les prisons modernes de 500-600 places, vous avez différentes parties dans les prisons, dont une dite de centrale. Pour avoir visité souvent ces endroits, c'est pas très chaleureux, hein, on ne s'y sent pas très très bien. Et lui sera particulièrement surveillé, donc il sera mis dans un endroit où sans doute il n'aura pas de voisins de cellules, il fera l'objet d'une surveillance permanente, il ira vraisemblablement en promenade seul. Enfin, on peut faire confiance à l'institution judiciaire et à l'administration pénitentiaire pour que toutes les précautions soient.
Les moyens vont être
lui et les autres.
Mais c'est vrai que pour être en centrale, il faut être condamné définitivement. Donc c'est vrai que là, mais il va inaugurer Amra, puisque au fond, c'est lui qui a fait changer la justice d'univers par rapport au narcotrafic. Puisqu'il y a eu un concours de circonstances de calendrier, il s'est évadé quasiment la semaine où la commission d'enquête du Sénat, après avoir entendu des cris d'alarme des magistrats, des policiers sur le narcotrafic, a inauguré, au fond, on a changé d'univers, on a changé de monde cette semaine-là. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin est garde des Sceaux. Sa priorité, c'est justement de pouvoir créer, parce que Amra, quand on a découvert qu'il s'était évadé, on a aussi découvert qu'il avait téléguidé un assassinat depuis sa cellule de la prison de la Santé. Donc on a changé d'univers depuis Amra. Vraisemblablement, Gérald Darmanin le mettra, lui et ses complices, dans des conditions d'isolement parfait.
Alors justement, puisqu'on parle de Gérald Darmanin, on vient de se procurer une lettre qu'il a envoyée aux agents pénitentiaires à propos de ça. Il dit, je vous le cite, « L'arrestation de Mohamed Amra marque un grand jour pour la République, pour son autorité, pour ses représentants dont vous êtes. Dans quelques jours, je proposerai à l'Assemblée nationale qu'un nouveau régime de détention soit instauré. Voilà. » Afin que jamais plus une autre affaire Amra ne soit possible.
Il y aura une jurisprudence Amra. Un grand merci à vous tous d'être venus sur le plateau d'Affaires Suivantes. C'était passionnant de décrypter cette actualité avec vous. Laurent, évidemment, reste avec moi. Tout de suite, le procès de la semaine. C'est un procès hors norme qui va s'ouvrir lundi devant la cour criminelle du Morbihan. Joël Le Squarnec, 74 ans, ancien chirurgien digestif, sera jugé pour viol et agression sexuelle sur près de 299 mineurs. Des enfants âgés de 8 à 11 ans qu'il opérait et dont il aurait abusé soit dans leur chambre d'hôpital, soit dans son propre bureau lors de consultations de contrôle. Des enfants parfois conscients, parfois encore endormis, des horreurs qu'il consignait très précisément dans des carnets noirs, des carnets d'horreurs qu'il rédigeait comme des romans érotiques. La semaine prochaine, la Cour va donc découvrir le profil de cet homme. Mais ce dimanche, on veut s'intéresser aux victimes. L'une des femmes qui a porté plainte contre lui est notre invitée dans un instant. Mais d'abord, on revient sur ces décennies d'horreurs avec Fanny Reynaud.
C'est dans cette maison, au cœur de la petite ville de Jonzac, que Joël Le Squarnec est interpellé. Il est accusé de viol sur sa petite voisine âgée de 6 ans. Il vit ici comme un ermite, souvent sale et nu. Dans la maison du chirurgien gastrique, les enquêteurs découvrent des poupées, des objets sexuels, des perruques et surtout, dissimulés sous le plancher, un carnet, rédigé à la manière d'un journal intime.
Je suis à la fois exhibitionniste, voyeur, sadique, masochiste, scatologique, fétichiste, pédophile et j'en suis très heureux.
Pendant près de 30 ans, le prédateur y a consigné des dessins d'abus sexuels, des récits à caractère pédophile et le nom de ses victimes présumées, leur adresse, leur âge.
L'âge moyen des victimes reste de 11 ans. Les faits les plus anciens hors prescription remontent au mois de janvier 1989 et les plus récents à janvier 2014.
30 ans durant lesquels Joël Le Squarnec a pu commettre des abominations dans différents établissements hospitaliers de l'ouest de la France. Des soupçons et des dénonciations de pédocriminalité ont émaillé son parcours professionnel, mais il n'a jamais été inquiété. Des silences et des dysfonctionnements qui ont permis aux chirurgiens de commettre 300 viols ou agressions sexuelles. Il abusait de ses jeunes patients après une opération lors de leur phase de réveil. Joël de Squarneck, 74 ans, pourrait être le plus grand pédophile jamais connu en France. Il encourt 20 ans de réclusion.
Et invité d'affaires suivante, Amélie Lévesque, bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces personnes qui ont porté plainte contre Joël Le Squarneck. Vous allez nous raconter votre histoire dans un instant. Merci beaucoup d'être là et votre courage de parler à la veille d'un procès qui, évidemment, est difficile pour vous comme pour toutes ces victimes. À vos côtés, votre avocat, Maître Francesca Satta. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous représentez une dizaine de parties civiles.
Un peu plus d'une dizaine aujourd'hui, oui.
Ça va être un procès extrêmement éprouvant hein, pendant 4 mois. Avant de parler peut-être de tout ça... Votre vie avant ce 27 janvier 1991, elle était comment ?
J'étais une petite fille tout à fait normale, joyeuse, j'allais très bien.
Une enfance heureuse ?
Très, oui.
Et puis il y a cette date, ce 27 janvier 1991, où comme plein d'enfants, vous avez une appendicite.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors sur le moment, il ne se passe pas grand-chose. J'avais un souvenir de lui assez vague, quelqu'un de pas très sympathique, assez vulgaire. Mais au sortir de l'opération directement...
Pardon, vulgaire, quand vous aviez 9 ans, hein.
Oui.
Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui vous avait donné ce sentiment-là ?
Il disait beaucoup de gros mots, donc il parlait pas d'urine, mais de pisse, de choses comme ça. Donc ça m'est resté très longtemps, ça, en fait, dans le souvenir de petite fille. Et puis, c'est plus tard qu'en fait, on a découvert que j'avais développé des phobies au niveau des soins, et notamment des prises de sang et des piqûres.
Qu'est-ce qui se passait ? Vous ne vouliez pas aller chez le médecin ? Il y avait des angoisses ?
C'était pire que des angoisses, oui. C'était des grosses crises. Je me cachais sous la table. On ne pouvait pas me prendre le bras. On ne pouvait pas me faire de vaccin. On n'a pas pu m'opérer les dents de sagesse. Ça a été très, très compliqué.
C'était, j'imagine, irrationnel pour les gens qui vous suivaient, même peut-être pour vous-même. Comment vous ?
Pour moi aussi, oui.
Vous ne compreniez pas comment ça se passait ? Qu'est-ce que vous vous disiez ?
Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, mes parents non plus, mon médecin non plus. Personne n'a vraiment mis de mots sur ce qui se passait. Et oui, c'était complètement irrationnel parce que c'est arrivé d'un coup. Et puis pourquoi j'avais peur comme ça ? Enfin, c'est vrai que ça paraît un peu bébé, un peu chochotte, un peu tout ce qu'on veut. Et puis voilà, après, même adulte, hein, ça a été très compliqué pour moi. Et c'est toujours très compliqué pour moi.
Ça a gâché une partie de votre enfance ?
Oui. Oui, très longtemps. Même aujourd'hui, si je tombe malade, j'aurais vraiment du mal à me faire soigner.
2019, cette affaire commence à être connue du grand public. On va y revenir par cette petite voisine qui va donner l'alerte. Et puis, on va remonter le fil, on va découvrir les carnets, on va découvrir l'horreur. Et c'est à ce moment-là que vous avez quoi ? Un flash, un moment, quelque chose se passe ?
Je lis un article de journal qui parle de l'affaire Le Squarneck, mais assez global, pas quelque chose de très précis. Et puis, je sais pas, je me retrouve dedans. Je me dis, mais si c'était lui qui m'avait opéré, donc voilà, je remonte un peu le fil des choses avec mes parents, mon médecin. Puis, je contacte mon avocate qui me confirme effectivement que je suis bien dans les carnets. Donc, à partir de là, c'est la descente aux enfers. Mais en même temps, voilà, des réponses à des questions d'une vingtaine d'années, voire 30 ans.
Donc, pour que les gens comprennent bien, dans ces carnets, il y a votre nom, il y a votre âge. Il y a le descriptif très précis de ce qu'il a fait à toutes ces personnes, à tous ces enfants. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui vous est arrivé ?
Pas vraiment, parce que moi, dans le carnet, la phrase, elle est assez succincte. Ouais. On ne parle que de regard. Donc c'est plutôt après les séances de thérapie et d'hypnose qui m'ont permis de revivre le moment de la salle de réveil.
Que vous avez vécu, Maître, c'est ce que porte avec beaucoup de courage, beaucoup de courage,
effectivement, d'être déjà présumée. Présente aujourd'hui. Amélie a été, je dirais, véritablement très courageuse dès le départ, dans les témoignages qu'elle a pu énoncer, qui lui faisaient du bien, parce qu'elle voulait parler à visage découvert, et elle voulait aussi que son témoignage puisse permettre, je dirais, que la parole se libère. Voilà. On est quand même face à un dossier où pendant 30 années, Joël Le Squarneck a bénéficié en toute impunité de ce silence. Silence à la fois personnel, silence professionnel, ce que nous qualifierons d'omerta. L'omerta aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons des victimes qui parlent, qui osent, je dirais, prendre la parole sur des sujets qui sont extrêmement intimes et qui ont ce courage de tous les jours d'affronter aussi ce qu'ils éprouvent, ce que Joël Le Squarneck a détruit en eux, que ce soit des hommes ou des femmes, dans les personnes que je vais défendre au procès qui commence demain, on a vraiment une destruction qui s'est faite de ces personnes.
Vous pouvez nous raconter alors quelques-uns de ces éléments qui sont notés dans ces carnets pour qu'on comprenne l'horreur de ce qui a pu être vécu. On va le découvrir la semaine prochaine pendant le procès, mais vous les connaissez bien, vous avez travaillé dessus.
Ben, je les connais bien, je connais effectivement, j'ai des mots en tête qui sont particulièrement prégnants sur ce qu'il a pu écrire. Vous savez, Amélie disait à l'instant, je me souviens d'un mot, c'est le mot « peace », voilà. Ben, vous voyez, ce sont des écrits qui sont écrits véritablement avec l'utilisation de ces mots très crus. Lorsqu'il est en visuel sur un enfant qui est dénudé sur le lit d'hôpital, ça va être « bon, mon regard est attiré par sa petite vulve précoce », etc. Vous voyez, ce sont des mots comme ça qui, moi, m'ont écœuré, je le dis très, très simplement. Il m'a fallu quand même trois reprises avant de pouvoir arriver à lire tout ça. Tellement subject, tellement vous avez une déshumanisation totale de l'enfant qui est concerné, tellement Joël Le Squarneck considère cet enfant comme un godemiché et qui est là pour assouvir ses besoins sexuels. Alors, toutes ces horreurs, tout ce qui sera relaté au cours de ces quatre mois de procès, tout ce qu'ont vécu ces personnes les unes après les autres, effectivement, il y aura lecture et il y aura effectivement des réponses, ou tout au moins nous le souhaitons, de Joël Le Squarneck, et tout au moins une prise de responsabilité en tant qu'homme de ce qu'il a pu faire.
Oui, c'est vrai que ça résonne avec l'affaire Pellicot. Pellicot filmé, Le Squarneck noté. Et pendant 30 ans, il a tout consigné dans cette petite écriture de patte de mouche, sachant que dans les deux cas, le mot n'existe pas dans le catalogue des perversions. Il y a la nécrophilie, qui est le summum de la perversion. La nécrophilie, c'est quand vous avez des rapports sexuels avec une personne morte. Et puis, il y a la somnophilie, quand une personne dort. Mais dans votre cas, comme dans le cas de Dominique Pellicot, on n'est pas du tout dans la somnophilie, puisque les personnes ne pouvaient pas se réveiller. Elles étaient endormies dans une phase opératoire. Autrement dit, on est plus proche de la nécrophilie, qui est encore une fois le summum de la perversion. Avec ce qu'on sait, c'est simplement ces carnets. Sachant que la famille, personne n'a rien dit, alors que vous le savez bien, il y a eu plein d'alertes de la famille.
Bien sûr.
Les collègues du Conseil de l'Ordre, personne n'a rien dit, alors que là encore, il y avait plein d'alertes. Autrement dit, le procès va permettre de revisiter pourquoi Le Squarneck n'a pas été arrêté bien plus tôt.
Et de découvrir le catalogue d'horreur. Et des perversions.
Le catalogue d'horreur, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même, on part d'une enfant, c'est une enfant qui va faire tomber Joël Le Squarneck. Une enfant de 5 ans que j'ai défendue au cours du premier procès avec ses parents, qui a eu ce courage inouï du fond de son jardin de pouvoir révéler à sa maman, avec ses petits mots à elle, ce qu'elle avait vécu. Et de là, nous allons arriver effectivement à la plainte de la maman, à l'enquête qui va se mener et aux perquisitions au domicile de Joël Le Squarneck pour découvrir des choses absolument atroces. Poupées, carnets tenus. On a effectivement cette espèce de serial killer, parce qu'on peut le qualifier comme ça. On a cette espèce de serial killer qui va noter jour après jour ce qu'il entreprend, ce qu'il fait sur chacun de ses mineurs. Mais pourquoi le fait-il ? Parce qu'il faut quand même expliquer cela. Il le fait parce qu'il a besoin, par une relecture, de revivre l'instant T qu'il a eu pendant 5 minutes au sein de la chambre de l'hôpital, pour pouvoir éprouver de nouveau ces pulsions sexuelles qu'il a éprouvées à ce moment-là. Joël Le Squarneck, c'est un pédophile qui l'écrit et qui le clame et qui vit 24 heures sur 24 dans l'unique but d'assouvir ses pulsions sexuelles.
Amélie, tout ce qu'on raconte là va être amplifié, détaillé ces prochains jours, ces prochaines semaines. Comment vous abordez ce procès ? Est-ce que vous allez réussir à le regarder ? Est-ce que vous avez envie de le voir ? Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Je suis assez stressée, assez angoissée là à la veille de l'ouverture du procès. Après, j'ai très envie de le voir, de le rencontrer. J'ai des choses à lui dire encore. Je fais que de le dire, mais j'ai vraiment des choses à lui dire parce que je veux pas avoir de regrets. J'espère ne plus jamais croiser sa route. Donc, j'aimerais vraiment clôturer tout le chapitre la semaine prochaine puisque moi, je passe tout au début. Ouais. Je passe le 7 mars.
Lui dire le mal qu'il vous a fait.
Aussi, et puis surtout qu'il ne m'a pas détruite et que malgré tout, je vais continuer, je vais me relever et que je vais y arriver et que je vais m'en sortir.
Votre vie aujourd'hui, vous arrivez à en parler, vous avez fait un travail considérable pour être là. Comment ça va ?
C'est assez difficile aujourd'hui, mais globalement, je vais bien. Je suis très bien entourée, je suis bien suivie, je suis très bien accompagnée aussi. J'ai beaucoup de chance, donc globalement, on va dire que je vais bien.
Est-ce qu'entre victimes, vous vous êtes parlé, vous avez des petits groupes peut-être pour vous soutenir à partir de la semaine prochaine?
Alors, les groupes, c'est surtout...
Alors, on a créé un groupe WhatsApp.
Avec un lien commun, qui est votre avocate.
On a créé un groupe WhatsApp, ce qui permet à toutes les victimes que je défends de pouvoir communiquer, je dirais, tous les jours, à n'importe quelle heure, et surtout, d'avoir ce soutien de groupe. On a vraiment un groupe extrêmement soudé, où la liberté de la parole est respectée, où personne ne va critiquer le fait de dire ceci ou cela. On est vraiment très très bien.
Et qu'est-ce qu'il faut en attendre de sa part? Comment il a été au premier procès? Qu'est-ce qu'il va dire?
Ah bah alors, écoutez, au premier procès, c'est bien simple. Moi, il n'a jamais reconnu les faits concernant la jeune petite que je défendais. Qu'est-ce qu'il faut en attendre pour ce procès qui arrive? Bah, j'aimerais qu'il n'ait pas l'attitude qu'il a eue au premier volet, c'est-à-dire... une attitude de retrait, une attitude tout à fait froide, attendant que les pions avancent devant lui pour savoir quelle réaction il va tenir et quelle réponse il va apporter. Moi, j'attends de lui qu'il se comporte en homme, qu'il assume ses responsabilités pour permettre aux victimes de pouvoir enfin avoir une réponse. Et ça, c'est important. On a besoin d'une reconstitution du puzzle. Tiens. C'est ça qui est important. Des pièces manquent. Et nous avons besoin de ces pièces.
Et on verra demain l'attitude qu'il adoptera. On voulait donner la parole aux victimes aujourd'hui, à vous toutes qui allez porter ce courage à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Maître Sata, d'être venue. Et la semaine prochaine, évidemment, on parlera de Joël Le Scornec, de toutes les horreurs qu'il a commises. Et c'est important de commencer par toutes celles qui l'accusent, évidemment. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Merci, Laurent. À dimanche prochain.